France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
La complexité et ses nuances, c'est notre sujet cette semaine. Aujourd'hui, nous réfléchissons à certaines simplifications apparentes qui disent souvent des choses complexes. L'art de grossir les traits, exagération et caricature. Et je précise que cette série est un clin d'œil au Festival de la Pop Philosophie à Marseille, qui ouvre ses portes cette semaine et qui cette année a choisi de faire un éloge de la complexité. Si complexité il y a dans les exagérations comiques, l'enjeu est de faire rire ou du moins sourire. Or, le sourire est rarement simple. Il saisit des subtilités, sachant bien que la personne ramenée à un trait saillant n'est pas réductible à celui-ci. Simplifier en exagérant, c'est faire voir en réalité, à partir d'une ligne devenue plus nette que les autres, toute une organisation personnelle, voire une complication singulière. Il reste à savoir s'il n'y a pas des manières différentes de grossir le trait. Comique de l'exagération et art de la caricature ne sont pas toujours de la même trempe exactement. Il y a d'ailleurs toute une histoire moderne à retracer, depuis les maximes de La Rochefoucauld et les caractères de La Bruyère, jusqu'au triomphe des caricatures dans les journaux du XIXe siècle. Saisir au XVIIe siècle l'âme humaine et ses traits saillants, parfois désespérants, est-ce la même chose que rire du pouvoir et des bourgeois à la façon d'Honoré Daumier dans ce XIXe siècle qui a connu un nombre impressionnant d'épisodes révolutionnaires? La simplification qui nous fait sourire semble comporter toute une gamme de nuances possibles. Bonjour Jean-Didier Wagner.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes spécialiste des littératures du 19e et du 20e siècle. Vous êtes déjà venu nous parler de la bohème il y a quelques semaines. Vous connaissez particulièrement bien ce monde des journaux français du 19e siècle dans lesquels la caricature occupe une place décisive. Et bonjour Charles-Olivier Sticker-Métral.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en littérature française à l'Université de Lille. Vous avez beaucoup travaillé sur les moralistes du XVIIe siècle, en particulier La Rochefoucauld et La Bruyère. Vous nous direz quelle était la démarche pour ces deux-là lorsqu'ils saisissaient des types, exagéraient certaines attitudes, etc. Pour commencer, écoutons Cabu, qui nous manque.
Bon, la caricature, moi je ne sais pas très bien comment ça se fait. Je sais que il y a des personnages qui sont plus ou moins difficiles à croquer parce que leur grimace est plus difficile à débusquer. C'est ça la caricature, hein, c'est trouver la grimace. Donc. Mais quand une nouvelle tête apparaît, je le regarde à la télévision. Parce que là, dans un débat, vous l'avez sous les yeux pendant une heure, vous avez le temps de le croquer. Et pour les idées, ben vous savez, c'est en écoutant la radio, en lisant les journaux, et en moi je fonctionne un petit peu à l'indignation ou à la en réaction contre ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu. Vous voyez, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer, et ben j'en profite. La caricature, à mon avis, c'est de faire plus vrai que vrai. C'est le dessin humoristique aussi. On stylise, on épure, si vous voulez, pour faire plus vrai que vrai. Et vous savez, le lecteur, il consacre 3 secondes à un dessin. S'il ne reconnaît pas le personnage en question, ben, il passe, quoi. Donc, c'est raté. Il faut que tout de suite, on reconnaisse. Il faut que la mise en page soit très lisible. C'est pour ça que je trouve que le dessin humoristique, c'est pas un art. C'est un art populaire. Voilà. Ça serait un art populaire.
Un art populaire, nous dit Cabu. Il s'exprimait là dans À voix nue sur France Culture en janvier 2007. Il parle aussi de grimaces et du fait que c'est un peu mystérieux ce qu'il y a à trouver chez les individus que l'on croque en caricature. Il me semble que la question de la grimace, Charles-Olivier Sticker-Métral, est précisément celle qui fait un peu la différence entre les caricatures dont nous allons longuement parler et les portraits écrits de La Bruyère, par exemple, et puis certaines maximes de La Rochefoucauld. Ce n'est pas vraiment la grimace qu'il constitue ou qu'il cherche. C'est peut-être autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Une autre simplification, si simplification il y a.
Oui, c'est plutôt le comportement hein, qui est important pour ces moralistes. C'est pas tout à fait... Il y a une dimension imagée, visuelle. Les caractères de la Bruyère ont été illustrés. Il y a des éditions illustrées au 19e siècle. Pas beaucoup, mais enfin un petit peu. Donc il y a une dimension très, très visuelle, mais... Chez la Bruyère, il s'agit d'abord de déceler une certaine logique comportementale. Et d'ailleurs, qui peut être parfois beaucoup plus complexe que une simple identification, un simple titre qu'on pourrait donner au caractère. La Bruyère, pour resituer un tout petit peu, se situe dans l'héritage de Théophraste, qui est un disciple d'Aristote, donc ça, on monte bien au-delà du XVIIe siècle, qui écrit... dans l'Athènes du 5e siècle, des caractères. Alors c'est le coléreux, distrait. Voilà, on peut donner un titre précis au caractère de Théophraste, ce que fait Théophraste d'ailleurs. Alors que chez la Bruyère, il n'y a pas de titre. Hein. Les caractères se déploient d'abord dans un comportement qui nous est donné à imaginer, qui nous est donné peut-être aussi à interpréter.
Alors, on va y revenir. Vous dites qu'il n'y a pas de titre, mais il y a clairement des figures.
Oui.
On peut dire ça? Ils ont
oui,
un prénom. Par exemple, tout à l'heure, on parlera de Ménalque, le distrait.
Voilà. Alors, Ménalque, le distrait. Mais on dira aussi
oui.
que c'est un caractère tout à fait à part par rapport à d'autres de la Bruyère. Il est à la fois extrêmement parlant, il illustre un peu ce qu'on voudrait chercher chez la Bruyère, spontanément. Et, me semble-t-il, il est un petit peu à part.
Jean-Didier Wagner. Cabu, que nous avons entendu à l'instant, dit trouver quelque chose qui soit plus vrai que vrai dans le dessin caricatural. Il parle de grimaces et il parle d'art populaire. Ça, c'est né au 19e siècle?
Non, ça commence plus tôt.
Alors,
ça commence par la charge au 16e siècle. C'est souvent une des sources de la caricature avec les frères Carache. Qui s'amuse à déformer les visages jusqu'au moment où on garde toujours la ressemblance, mais avec une forme de caricature naissante autour. Mais c'est un art d'atelier, c'est un amusement d'atelier.
C'est déjà un art populaire.
J'aime pas trop la différence entre populaire et élitiste. Je trouve que c'est un frein justement pour l'accès à une culture qui soit complète, parce que. Prenons un exemple. Pour la caricature, la première chose qui est dite dans la revue La Caricature fondée par Philippon, c'est le prospectus. C'est-à-dire, c'est un peu la profession de foi de la publication. Et Balzac demande aux écrivains de charger, justement, de faire des portraits de la société de la même manière que les caricaturistes le font.
Alors, juste pour qu'on plante le décor,
ouais.
Vous avez évoqué La Caricature, qui est un journal fondé par Charles Philippon. Il en avait fait d'autres avant des journaux, notamment une revue, La Silhouette. Mais là, c'est un grand moment, La Caricature.
Un grand moment.
Et surtout, la date semble importante.
1830.
Et en novembre, c'est-à-dire 3 mois après les journées révolutionnaires de 1830.
Parce que 1830, c'était aussi des lois sur la presse qui étaient intolérables et donc qui ont amené les Trois Glorieuses.
Alors aussi, si je puis me permettre, parce que j'ai l'impression que c'est très important pour comprendre tous les enjeux. Enfin, vous me démentirez peut-être, mais avant 1830, nous avons, enfin nous, oui, les Français avons eu un moment de monarchie absolue très très rigide. Et pour le coup, autant il y avait eu la charte de 1814 un petit peu souple, autant lorsque Charles X, dans les années 1920, s'empare du pouvoir après son frère Louis XVIII, là, franchement, c'est très dur pour la presse. On a des années assez difficiles. Et on pouvait penser que la monarchie de Juillet allait assouplir. Ce qu'elle a en partie fait, mais est-ce qu'il y avait des attentes déçues qui expliqueraient cette presse très satirique qui naît après les journées de 1830?
C'est comment dire, s'il est le roi des Français, il y a la charte derrière et il y a, comment dire, la République. Voilà ce qu'on attend, en fait. Et donc le combat républicain, le combat pour les principes de 89, se poursuivant, comment dire, ce Louis-Philippe, vont amener une grande réaction de la part des journalistes, qui sont en grande partie, je dirais, du moins dans les petits journaux, républicains.
Et donc c'est une réaction aux attentes républicaines qui n'ont pas
déçus.
Du tout été honorées.
Ils sont déçus, oui.
Après l'été 1830.
Mais auparavant, puisque je voulais dire, il y a eu du combat satirique avec peu de caricatures, certes. Mais par exemple, le Nain jaune en 1815 a introduit déjà la caricature à l'intérieur de petits journaux qui ne ressemblent pas du tout à un journal au sens tabloïd, si vous voulez, le format folio. C'était des journaux qui étaient à peu près dans le format de la revue des Deux Mondes et qui étaient vendus par fascicules. Mais dans certains fascicules, on a des caricatures excessivement violentes contre, je dirais, les monarchistes. En plus, il y a, comment dire, les deux branches qui se battent. Et certaines sont attribuées à Delacroix, déjà. Et ça va continuer. Mais vraiment, pour que la caricature entre vraiment dans le journal, comme elle le sera dans le Charivari, de façon quotidienne, il faut que la lithographie apparaisse. Et elle apparaît en 1820. Elle apparaît un peu avant 1820, mais à partir de 1820, on va utiliser la lithographie pour mettre l'image dans le journal. Et il y a beaucoup de petits journaux de l'époque, à partir 1820, 25, 29. Hein, il y a des petits journaux, certains petits, mais qui s'appellent Le Figaro, hein, qui sont excessivement, agressifs vis-à-vis du régime, et publient parfois à l'intérieur des images. Voilà. Mais le journal, un des spécialistes, de la caricature qui s'appelle Guillaume Doisy, j'invite les auditeurs à aller voir au moins son site qui s'appelle caricature.com, qui est une merveille. Et Guillaume Doisy dit bien, et il a tout à fait raison, que la caricature et le charivari sont les journaux satiriques modernes. Voilà. Il y avait de la satire auparavant, mais là, le journal est né. Et ce modèle va continuer jusqu'à aujourd'hui, hein, bien évidemment.
Est-ce que vous voulez qu'on entende quelqu'un d'aujourd'hui ?
Absolument.
C'est le choix de l'équipe d'Avec Philosophie. Il s'agit de Lison Daniel qui, sur Instagram, à proposer des petites pastilles drôles, méchantes peut-être aussi, je ne sais pas. Enfin, c'est ça la caricature. Voici un exemple, c'était juste au tout début du Covid avec le premier confinement.
Comment tu vas? Mais oui, quelle galère, bien sûr. Écoute, depuis la première allocution de Macron, je peux pas te dire, toute la famille est montée au créneau. Ça a été le branle-bas de combat. Ouais. Alors, Élise a pris celle de Mégève, c'est plus pratique avec les chiens. Pierre-Yves a insisté comme un fou pour s'installer au Mas. Je dis bon, ok, tu sors de ton lumbago, la Provence te fera du bien. Je me sacrifie, c'est moi qui irai à Saint-Luc. Ah, écoute, moi, la Côte d'Émeraude en mars, ça me fout un cafard dingue. Bah, la mer est moche, la glycine n'est même pas en fleurs. Chier, quoi. Chier. Écoute, c'est un enfer de tous les diables. Mon poissonnier a fermé, je suis obligée d'aller jusque sur le boulevard du Sémaphore pour acheter des coquillages qui sont d'ailleurs franchement pas terribles. Puis il y a la petite Maria qui m'a lâchée, qui doit garder ses gosses, je ne sais quoi. J'ai dû me taper toute l'ouverture de la maison toute seule.
Ça vous a plu ?
Tout à fait.
Alors évidemment, il y a aussi une chose qui s'entend là, enfin il me semble, c'est que les caricaturistes se répondent entre eux ou font des échos. Par exemple, franchement, je trouve que dans la façon dont s'exprime là Lison Daniel pour imiter soit une grande bourgeoisie, soit d'anciens aristocrates désormais devenus bourgeois. On entend évidemment Valérie Lemercier, je trouve, dans Les Visiteurs, ce film de Jean-Marie Poiret de 1993. C'est comme si les types, une fois très bien posés, étaient repris par d'autres, amendés légèrement. Il y a comme... On parle souvent dans littérature d'intertextualité, et là, il y a une inter...
Iconicité.
Voilà. Et c'était vrai, ça, au 19e, Jean-Didier Wagner?
En fait, c'est très drôle, parce que c'est Nadar qui dit ça. Il dit à un certain moment, on pourrait très bien décrire des personnages dans un roman en disant « Oh, c'était un bourgeois à la Daumier, oh, c'était... » etc. Voilà. Et que le personnage est tellement cerné par un trait caricatural que tous les autres, dessinateurs... pour que le public reconnaisse, va jouer ce trait très caricatural. J'appelle ça une sorte de fantôme caricatural qui double le personnage réel, hein, une sorte de caricature, comment dire, qui le porte. Ça me fait penser aussi à une caricature que j'adore, c'est beaucoup dans le Charivari, ce qu'on appelle les ombres portées. Le personnage est un petit peu en profil égyptien devant un mur, comme ça, on a l'impression qu'il marche, et son ombre révèle son personnage diabolique par derrière. Et en fait, c'est ça, il y a à l'intérieur de tout personnage, cette iconicité, je dirais, comique, grimaçante, qui s'agit de... Alors, il y a plein de procédés hein, pour ça. Par exemple, Paul de Kock, qui était un romancier très grand, assez populaire, justement. On le représente, bien non, par un calembour comme un coq. Hein. Mais tous les procédés de la caricaturaux forment une sorte de grammaire rhétorique qui est excessivement développé, vraiment. Et personne n'a essayé de construire cette grammaire, mais elle est étonnante parce que elle joue exactement de tout ce qui est intertextualité, iconicité qu'on va trouver dans la littérature générale.
Alors cette Lison Daniel que nous venons d'entendre, comique, caricaturant une certaine voix. Un peu rapidement, je vais qualifier de bourgeoise, parce qu'on n'a pas le temps d'explorer encore une fois le simple et complexe. Hein, c'est bien notre sujet. C'est sans doute plus complexe que cela. Elle a intitulé ses petites pastilles Les caractères. Charles-Olivier Sticker-Métral, vous êtes spécialiste de la Bruyère. Vous trouvez ça bien joué ?
Bah, tout à fait. Je ne le savais pas, vous voyez, mais en l'écoutant, on retrouve quelque chose de la Bruyère. C'est très, très frappant. Dans cette capacité à saisir, effectivement, là, à travers un trait de voix, mais d'ailleurs, les caractères de la Bruyère, parfois, font entendre la voix d'un personnage utilisé.
Ils étaient lus à haute voix.
Oui, ils étaient lus à haute voix.
C'était différent de la lecture silencieuse. Pour vous, ça générait quelque chose?
Ah, certainement que le texte de la Bruyère lu à haute voix acquiert une épaisseur, je pense, et puis il y a un plaisir sans doute de la lecture, hein, et c'est voilà, faudrait que de grands comédiens s'en emparent.
Gens se reconnaissaient.
Oui, alors reconnaissaient leurs contemporains, ça c'est sûr. Se reconnaissaient, c'est peut-être parfois un peu plus difficile de se reconnaître soi-même dans les caricatures, mais c'est peut-être aussi une des visées de ces moralistes que d'inciter chacun et chacune à se reconnaître. Pas seulement à reconnaître les autres, parce que c'est facile de reconnaître les autres.
C'est soi-même qu'on ne reconnaît pas.
Soi-même, ça c'est l'opacité, c'est une chose que La Rochefoucauld thématise beaucoup. Parce qu'on s'aime soi-même, avec ce qu'il appelle l'amour propre, peut-on se reconnaître soi-même dans les maximes? Et La Rochefoucauld le dit dans un avis au lecteur de la première édition, on n'aura pas trop de difficultés à l'appliquer aux autres. Parce que quand on dit du mal des autres, ça flatte secrètement en nous ce même amour propre.
Ce n'est pas du tout le même genre de personnage, La Rochefoucauld et La Bruyère. D'abord familialement, La Rochefoucauld, plusieurs dizaines d'années plus que La Bruyère, hein, c'est une génération antérieure. Il vient d'une grande famille de la noblesse importante française.
Absolument.
C'est pas du tout le cas de La Bruyère.
Non, pas du tout. C'est deux époques qui sont proches, mais qui ne sont pas tout à fait la même en termes de contexte littéraire et de contexte intellectuel. Alors La Rochefoucauld, il publie ses maximes en 1665, les premières éditions, il les remanie beaucoup jusqu'en 1678, date de la dernière édition. Et La Rochefoucauld, c'est un grand seigneur, c'est un duc et pair de France. Il a participé à la Fronde, donc avec le prince de Condé, plutôt contre Louis XIV, enfin contre le pouvoir royal. Il a ensuite été disgracié, il revient un petit peu en grâce. Et il publie ses maximes à un moment qui est d'abord un essor d'une littérature mondaine, d'une littérature de salon. Alors, La Bruyère, c'est un peu plus tardif. Il les publie en 1688 pour la première édition. Là aussi, il remanie, il augmente considérablement le volume jusqu'à milieu des années 1690. Mais La Bruyère, c'est un obscur juriste de formation. Il a classé les bibliothèques d'un grand. Il a été précepteur. Voilà. Mais c'est pas du tout la même catégorie sociale.
Et célibataire, il mourut.
on sait peu de choses sur la Bruyère. Non, je crois que la Bruyère était mariée, il me semble, mais on connaît assez peu de choses sur sa, sur son histoire. C'est quelqu'un d'assez ordinaire, enfin sans vraiment d'histoire personnelle, si ce n'est éditer les caractères. C'est déjà pas mal quand même.
La Rochefoucauld. C'est un grand succès.
C'est un succès considérable. Alors
là, c'est la gloire pour lui.
Je n'ai plus les chiffres exactement en tête, mais les caractères sont un succès de librairie absolument considérable. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il augmente son volume d'année en année. Alors lui dit, c'est parce que les folies des hommes me donnent toujours de la matière. C'est une explication possible, mais il y a une explication peut-être plus matérielle qui n'est pas contradictoire. Qui est que bah, ça marche, ça se vend, ça trouve un lectorat, et ça permet à la Bruyère... Alors, deux choses, ça lui permet une carrière personnelle, il est élu à l'Académie française, ce qui est une reconnaissance tout de même extrêmement importante, et ça lui permet, sur le plan intellectuel, de s'en prendre à certaines conceptions de la littérature qui sont, à ses yeux, extrêmement néfastes. Cette littérature un peu éphémère, celle qui se pratiquait dans les salons, et à un moment où il y a une querelle très importante, qui est la querelle des anciens et des modernes. La Bruyère est un ancien, et c'est cette littérature des modernes, cette littérature éphémère, qui passe aussi par les périodiques, les ancêtres de la presse, dont parle Jean Didier, le Mercure Galant.
Presse sous monarchie absolue.
Voilà, mais c'est pas tout à fait la presse, mais enfin, c'est l'ancêtre de la presse, le Mercure Galant. C'est quand même une publication périodique. Et pour La Bruyère, c'est une sorte de déliquescence intellectuelle. Il n'y a rien, ça ne fait qu'effleurer la surface des choses.
Est-ce que... C'est une prise de risque pour La Bruyère. Vous parlez de sa gloire. Est-ce que il a dérangé des gens? Est-ce qu'il y a une agressivité inhérente à sa façon de grossir le trait? Il y a quelque chose de caricatural voulu. Les caractères, ça fait pas toujours plaisir. Vous l'avez suggéré en disant qu'on n'aime pas se reconnaître dedans soi-même. Est-ce qu'il y a eu un peu de grabuge autour des caractères?
Alors, du grabuge, un petit peu, il y a eu des polémiques. La Bruyère ne prend pas de risque politique, hein, comme peuvent le prendre les caricaturistes du début du XIXe siècle. Mais en revanche, sur le plan littéraire, il y a des coups à prendre. Les modernes, donc les modernes qui sont représentés notamment par Charles Perrault, sont extrêmement dérangés par le livre de La Bruyère et vont trouver un moyen justement de le décrédibiliser à travers cette accusation de méchanceté, de satire, en disant dans ses caractères finalement La Bruyère dit qu'il veut représenter les hommes en général, ça Théophraste l'avait très bien fait, mais lui il représente des individus particuliers. Finalement, il ramène La Bruyère à une sorte de chronique un peu mondaine, et en plus, qui serait d'autant plus perverse, qu'elle serait dissimulée par des noms fictifs, ce qu'on appelle des clés. Il faudrait chercher derrière tel ou tel personnage de La Bruyère des gens qui existent. Donc là, vous voyez, on serait assez proche de la caricature.
Oui, même si la querelle des anciens et des modernes, peut-être qu'il faut préciser à nos auditeurs, ça a été des grosses batailles artistiques. Il y avait un enjeu politique, puisque les modernes étaient proches de Louis XIV. Mais on peut pas non plus dire que les anciens prenaient des risques considérables. Tout ce qui compte peut-être le plus en littérature au XVIIe siècle, Racine, La Fontaine et plein d'autres, étaient du côté des anciens. Donc c'est pas une bataille dangereuse.
Ah non, du tout. Sur le plan des risques personnels, il n'y a pas grand-chose. En revanche, c'est une bataille sur le plan de la symbolique, sur le plan de la légitimité, sur le plan de la reconnaissance. Oui, mais...
Alors, oui.
Non, voilà, mais ils prennent pas... La Bruyère n'a jamais risqué d'être en prison.
Ce n'est pas le cas des caricaturistes du 19e, en tout cas, tant qu'il y a des lois un peu dures, et c'est le cas de la monarchie de Juillet. Il faut rappeler que Honoré Daumier a fait de la prison après avoir caricaturé, et pas qu'un peu, hein, six mois de prison et 500 francs d'amende, ce qui est à peu près le salaire d'un ouvrier. Un ouvrier, paraît-il, à l'époque, c'était 4 francs pour 5 à 17 heures de travail. C'est quand même beaucoup d'argent de la prison pour avoir caricaturé Louis-Philippe en Gargantua, avalant tous ces sujets.
Les impôts de la France.
Les impôts.
Oui, cette saison. Hein. en fait, oui, mais il avait déjà, attiré un petit peu l'attention de la censure par aussi les blanchisseurs. C'était en fait 2-3 personnages, bien évidemment, faisant partie de la monarchie constitutionnelle, en train de laver le drapeau français. Et en frottant, ils disaient, le rouge, ça a du mal à partir. Voilà. Parce qu'ils voulaient retransformer le drapeau bleu, blanc, rouge, qui était le drapeau, comment, de la monarchie de Juillet, en drapeau blanc, drapeau de la monarchie absolue. Donc tout ça va amener, va l'amener en prison. Il y a aussi en même temps un côté excrémentiel dans la Gargantua, puisque on a l'impression que c'est un Gargantua qui est chez Gulliver, qui est une sorte de Gulliver, un potentat, et les petits personnages, montent sur une sorte de tapis pas roulant encore, mais tous les impôts, les richesses de la France qui redescendent par ses intestins en prébande et
C'est un grand classique du 19e. On le représente aussi, c'est Philippon pour le coup qui a représenté
Empoire.
Louis-Philippe Empoire, ce qui est resté très fameux. Et la poire, alors c'est quoi? C'est les fesses.
C'est bête.
C'est les orifices aussi.
Mais c'est un peu bête, la poire. Il y a un côté comme ça. C'est comme ça que Renault avait raté le lancement de la Renault 14. Ils avaient fait une publicité avec la poire. Tout le monde s'est dit, on n'est pas des poires, on va pas l'acheter. Donc, vous voyez que la poire, il y a un champ sémantique assez large.
Mais là aussi, tout le monde risque sa vie,
Oui, mais c'est pire, la poire.
En tout cas, sa liberté, on va dire.
C'est pire, la poire, parce que ça se dessine tellement facilement que c'est devenu viral. C'est-à-dire que il y a plein de petits dessins dans le Charivari ou la caricature qui représentent des enfants en train de dessiner des poires sur les murs, etc. Et ça devient tellement viral que ça va amener, bien sûr, après aussi un événement important qui va être l'attentat contre Louis-Philippe, l'attentat de Fieschi, aux lois de 1835.
Alors, je voudrais qu'on fasse un petit arrêt sur Honoré d'Aumier, qui est un immense personnage. Au-delà de la... Il y a des expositions d'Aumier.
Oui, il y en a une à la BNF par Valérie Sueur-Hermel
En dessin, il a aussi fait d'autres choses. Là, on part surtout ses lithographies.
En peinture.
Donc c'est quelqu'un qui a changé
la
donne,
quand même. C'est le Michel-Ange de la caricature, si vous voulez.
Et pas seulement.
Pour moi, c'est le Balzac de la caricature. Surtout, il a la même énergie de Balzac. Ils ont travaillé ensemble, dans la caricature. Balzac écrivant des textes qui sont d'ailleurs titrés caricature ou croquis, mais ce sont des textes, et d'Aumier donnant des images.
Je vous propose qu'on écoute un commentaire sur Honoré d'Aumier de Ségolène Lemaine. Elle était invitée au Mardi des auteurs sur France Culture en janvier 2008.
Au musée d'Orsay, en compagnie de Ségolène Lemaine dans la salle d'Aumier, devant tout le personnel politique de la monarchie de Juillet, 36 petits bustes de terre peints par d'Aumier.
On se dit souvent qu'il travaillait en modelant à l'Assemblée. Alors, c'est pas vrai, en fait. C'est un artiste qui a une mémoire quasiment pathologique, phénoménale, qui allait certainement à l'Assemblée. Et quand il revenait, il était capable de refaire ce qu'il avait vu. Donc, il travaille de mémoire. Et le travail de la mémoire est très important dans son œuvre. C'est ce qui lui permet de reproduire à de longues années de distance les mêmes personnages et d'utiliser ces petites bustes comme des maquettes, précisément. Et puis alors, du point de vue de ces personnages, alors parmi ceux qui sont intéressants, on peut citer Guizot. C'est là qu'il va au-delà, en fait, de la caricature, quand il fait le portrait de Guizot. Et on voit, d'une certaine manière, sa sympathie pour ce ministre, bien que sa devise ait été « Enrichissez-vous » et qu'il ait été le ministre de Louis-Philippe. On voit que c'est quelqu'un pour lequel il a de l'estime. On voit bien tout le travail de physionomiste extraordinaire qui a été celui de d'Aumier et ensuite de reconfiguration quand il reprend tout cet ensemble pour en faire le ventre législatif et que toutes ces figures deviennent, elles tout ensemble, le ventre du pouvoir.
Vous m'avez dit, en entendant cette archive, Jean-Didier Wagner, je dis ce que vous avez dit en off, mais ça n'est pas du tout grave, c'est même passionnant, vous avez dit... au fond, d'Aumier, c'est peut-être le La Bruyère du 19e siècle.
Pourquoi ? Certainement, à mon avis, parce que en fait, il va multiplier les dessins. Ah bon, je reprends, après 35, les lois sur la presse interdisent de se moquer, bien évidemment, du régime, du roi, etc. Et donc, toute la caricature française est obligée de se replier sur sa deuxième, discipline régalienne, la satire sociale, voilà. Et donc, Daumier assiste à un pays en pleine mutation. La publicité apparaît, les médias sont de plus en plus importants, la révolution industrielle amène le train, et là il va regarder tout ce qui se passe autour de lui et va décrire les gens confrontés à ce moment-là. Et donc, bien évidemment, il y aura La Bruyère qui sera un peu plus socialisé, parce qu'il va parler du petit bourgeois, de l'homme du juste milieu avec sa femme et ses enfants, confronté à la révolution qu'est le train, etc., etc. Et en même temps, pour les caricaturistes, il y a un principe qui est très très pratiqué à l'époque, c'est la sérialité. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver, d'ailleurs les dessinateurs de quotidien le savent, de trouver le bon dessin chaque jour. Donc eux vont faire des séries. Et les séries de Daumier sont extraordinaires. Il fait les mœurs conjugales, les types parisiens, les émotions parisiennes, les baigneurs, les proverbes, les bohémiens de Paris, les Robert Macaire dont on parlera peut-être, les étrangers à Paris, les gens de justice qui sont, que je dirais, tout ce principe de caricatures qui paraissent dans le journal, mais sont reprises ensuite en album thématique. Mmh. C'est pour ça qu'il y a la conjonction d'un La Bruyère qui décrit les mœurs de son temps et d'un Balzac qui en fait presque une comédie humaine, en fait. Les deux sont là, en fait.
Alors, quand on dit que Daumier est peut-être le La Bruyère du 19e siècle, il me semble aussi que ce qu'on souligne, c'est que c'est très fin. C'est-à-dire que à la fois, il y a un trait saillant qui permettra une série, certainement, comme La Poire, après tout, qui a été reprise à Philippon. Bon, tout le monde va représenter Louis-Philippe avec La Poire. Mais ce trait saillant dit en vérité beaucoup de choses, et quand on analyse de près, c'est loin d'être simple. Est-ce que vous diriez la même chose de La Bruyère ?
Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, alors je suis assez frappé parce que la proximité de la situation de La Bruyère avec ce que vient de dire Jean-Didier Wagner, hein, il n'y a pas non plus d'opposition politique sous Louis XIV. On ne peut pas publier, sauf si on va en Hollande très loin, des pamphlets politiques ou des textes d'opposition, ou même des textes qui vont avoir un impact politique. Donc, ce qui reste, c'est exactement la même chose. C'est la satire sociale, et une satire, ou en tout cas une représentation, ou un goût pour la représentation du monde contemporain, qu'on trouve aussi dans les salons, et qu'on trouve aussi donc les salons, c'est là où se fait la réputation littéraire, c'est là où s'échangent les textes, même si, bon, ces salons sont aussi des lieux de production et des lieux idéalisés par la littérature. Mais le public du XVIIe siècle attend qu'on lui représente finalement sa propre image, avec une dimension qui peut être plaisante ou une dimension qui peut être plus critique.
Alors, je vous propose qu'on écoute Jean de La Bruyère. Ce fameux portrait de Ménalque le distrait. La question qui se pose pour nous dans une série sur la complexité, la simplicité, c'est que il grossit très, mais énormément. C'est-à-dire que ce distrait-là, il pourrait presque pas vivre tellement il est distrait. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Parce que c'est tellement énorme comme distraction qu'on n'y croit presque pas. Alors, quel est le talent derrière? Vous nous le direz après. Voici le portrait de Ménalque par Jean de La Bruyère.
Ménalque descend son escalier, ouvre sa porte pour sortir. Il la referme. Il s'aperçoit qu'il est en bonnet de nuit. Et venant à mieux s'examiner, il se trouve rasé à moitié. Il voit que son épée est mise du côté droit, que ses bas sont rabattus sur ses talons, et que sa chemise est par-dessus ses chausses. Il cherche, il brouille, il crie, il s'échauffe. Il appelle ses valets l'un après l'autre. On lui perd tout, on lui égare tout. Il demande ses gants qu'il a dans ses mains. Il entre à l'appartement et passe sous un lustre où sa perruque s'accroche et demeure suspendue. Tous les courtisans regardent et rient. Mais Nalque regarde aussi et rit plus haut que les autres. Il cherche des yeux dans toute l'assemblée. Où est celui qui montre ses oreilles et à qui il manque une perruque? Et s'il va par la ville après avoir fait quelques chemins, il se croit égaré, il s'émeut, il demande où il est à des passants qui lui disent précisément le nom de sa rue. Il entre ensuite dans sa maison d'où il sort précipitamment, croyant qu'il s'est trompé. Il se marie le matin, l'oublie le soir et il découche la nuit de ses noces. Quelques années après, il perd sa femme, elle meurt entre ses bras, il assiste à ses obsèques, et le lendemain, quand on vient lui dire qu'on a servi, il demande si sa femme est prête et si elle est avertie.
C'est quand même... Alors, l'essai d'une lecture de Pierre Bertin, très drôle, je trouve très à la fois légère, et c'est cette légèreté qui invite à réfléchir à la profondeur cachée, bien sûr. Une lecture de Ménalque... un portrait de Jean de la Bruyère. Charles-Olivier Sticker-Métral, c'est presque too much, comme on dirait. Alors là, je vais me faire gronder, parce que la rare fois où j'emploie de l'anglais. Là. Mais peu importe, c'est trop, c'est plus que grossier comme trait, c'est hyper simple. Et quoi alors?
Alors effectivement, hein, là, quand on écoute ce texte de Ménalque, il est extrêmement savoureux d'abord ce texte. On perçoit aussi à quel point la Bruyère est un styliste éblouissant. Vous parliez de la phrase hein, ici. Il y a un art de la mise en scène du personnage et puis de l'enchaînement des distractions. Et quand on dit ça avec un peu d'anachronisme, on pense évidemment à la caricature, on pense au cinéma muet, on est chez Chaplin ou à la bande dessinée. Il y a dans le Crabe aux pinces d'or une planche où Hergé représente un savant qui n'est pas encore le professeur Tournesol, un savant distrait. Il a exactement les distractions de Ménalque. Je soupçonne Hergé d'avoir lu la Bruyère. Et en même temps, vous disiez c'est trop, la Bruyère en a parfaitement conscience. Il y a une note de l'auteur dans toutes les éditions anciennes des caractères, qui est reproduite hein, dans toutes les éditions actuelles, qui dit « il s'agit moins ici d'un caractère que d'une série de faits de distraction ». Donc la Bruyère a bien conscience que là il va un peu vers autre chose que ce qu'il fait la plupart du temps. C'est pour ça que je vous disais, c'est un texte un peu à part, finalement, Ménalque. C'est un texte très drôle, mais c'est un texte dont la Bruyère a bien conscience qu'il est un peu une sorte de limite, ou qu'il franchit une limite.
Pour faire rire?
Pour faire rire, ça, certainement. Le personnage de Ménalque nourrit sans doute la dimension comique des caractères. C'est aussi reprendre un certain héritage théâtral.
Donc c'est les scènes un peu énormes de l'avare ou du bourgeois gentilhomme qui ne résument certainement ni l'avare ni le bourgeois gentilhomme, mais pour le coup, ce sont celles qu'on connaît le mieux.
Voilà, qui sont des... L'avare, c'est un peu comme Ménalque sur le plan théâtral. C'est un collage de faits d'avarice. Molière cherchait d'abord des scènes qui fassent rire, à la manière de la comédie italienne, ce qu'on appelle des lazzi, c'est-à-dire à la fois des jeux de scènes ou des types d'enchaînement de répliques, particulièrement efficace sur le plan comique. Et là, la Bruyère fait un peu la même chose. Donc il se met aussi, c'est aussi une manière de se dire l'héritier de Molière, mais d'un Molière qui est évidemment le Molière de l'avare, qui est aussi le Molière du Tartuffe, qui entend corriger les mœurs. Utiliser un rire qui serait fructueux sur le plan intellectuel. Alors Ménalque, de ce point de vue-là, encore une fois, est-ce qu'un distrait peut être corrigé par Ménalque? Peut-être pas. Mais d'autres portraits de la Bruyère mettent en place une certaine interrogation sur la nature même du comportement. Déjà, au sein même du caractère de Ménalque, il y a un moment où il dit « on le prendrait pour tout ce qu'il n'est pas, un incivil, bon, il peut être autre chose qu'un distrait, ou là, des comportements qui ressemblent à d'autres comportements que ceux de la distraction ». Et cette interrogation sur la nature même du comportement, l'assignation morale d'un comportement, est au cœur de la réflexion de la Bruyère.
Alors c'est chez La Rochefoucauld que ça a l'air d'être le plus évident, le fait que toutes ces maximes organisent une vision extrêmement pessimiste de l'âme humaine Et ça, il le dit avec énormément de subtilité. À la limite, grossit-il le trait ou est-il l'homme de la modération ? Je prends des maximes comme celle-ci. Celui-là n'est pas raisonnable à qui le hasard fait trouver la raison, mais celui qui la connaît, qui la discerne et qui la goûte. Donc il y a des raisonnables par accident, et il y a les vrais raisonnables. Ça grossit un peu le trait, mais c'est vertigineux comme remarque.
Ah oui, tout à fait. Alors, La Rochefoucauld, c'est un peu autre chose, parce que c'est pas tout à fait la même technique littéraire, la même technique stylistique. Il y a des maximes un peu à La Rochefoucauld chez La Bruyère, mais La Bruyère développe tout de même ses représentations de personnages. Chez La Rochefoucauld, c'est plus une interrogation sans doute plus abstraite sur la bonne utilisation d'un certain des termes moraux. La première maxime, enfin qui sert même d'épigraphe à l'ensemble des maximes, c'est « Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés ». Donc, qu'est-ce qu'on peut appeler vertu ? Qu'est-ce qu'on peut appeler vice ? Ça va un peu à l'encontre, sans doute, d'une lecture qu'on a pu faire, enfin qu'on peut faire, qui a été faite même de la maxime comme une sorte de simplification, voire de simplisme. Je pense à un texte d'Albert Camus, qui est une préface aux œuvres du moraliste Champfort, moraliste de la toute fin du XVIIIe siècle, de l'époque de la Révolution. Et Camus a des mots extrêmement durs vis-à-vis des faiseurs de maximes, en disant c'est des gens qui simplifient, c'est des gens qui nous apprennent rien. Le vrai moraliste, c'est le romancier. Alors Camus prêche sans doute pour sa paroisse en disant cela. Mais à côté de cette lecture d'un schématisme moral dans les maximes, quand on regarde chez La Rochefoucauld, il y a un goût du paradoxe et donc une certaine provocation. C'est une forme aussi qui invite à penser. Dans les correspondances par lesquelles La Rochefoucauld teste ses maximes auprès d'un certain nombre d'aristocrates amis, qui sont souvent des gens, notamment des femmes, d'une très grande culture, il y a un échange entre deux lectrices sur une maxime, et l'une des correspondantes dit à l'autre « Vous avez parfaitement achevé la maxime ». La maxime demande à être achevée, même littérairement, on a l'impression qu'une maxime, il n'y a plus rien à dire après. Et en même temps, elle suggère tout un monde moral, tout un ensemble d'applications, tout un ensemble de réflexions. Elle fait penser, elle fait écrire. Donc de ce point de vue-là, elle est peut-être plus du côté de la complexité, la maxime.
Alors je vous propose qu'on aille à fond sur l'enjeu de la complexité en la posant à La Bruyère et à La Rochefoucauld. Il y a des passages dans leurs œuvres sur lesquels vous avez attiré notre attention. Je vous en remercie, Charles-Olivier Sticker-Métral, où ils disent explicitement à quel point leur regard sur les êtres humains empêche de juger trop vite. Voici successivement un texte de La Rochefoucauld et un texte de La Bruyère sur les jugements.
Je crois qu'il y avait de l'orgueil, de l'injustice et mille autres ingrédients dans la magnanimité et la libéralité d'Alexandre et de beaucoup d'autres. Que dans la vertu de Caton, il y avait de la rudesse et beaucoup d'envie et de haine contre César. Que dans la clémence d'Auguste Porcina, il y eut un désir d'éprouver un remède nouveau, une lassitude de répandre inutilement tant de sang et une crainte des événements, à quoi on a plutôt fait de donner le nom de vertu que de faire l'anatomie de tous les replis du cœur. Il ne faut pas juger des hommes comme d'un tableau ou d'une figure sur une seule première vue. Il y a un intérieur et un cœur qu'il faut approfondir. Le voile de la modestie couvre le mérite, et le masque de l'hypocrisie cache la malignité. Il n'y a qu'un très petit nombre de connaisseurs qui discernent et qui soient en droit de prononcer. Ce n'est que peu à peu, et forcé même par le temps et les occasions, que la vertu parfaite et le vice consommé viennent enfin à se déclarer. «
La Rochefoucauld, donc d'abord, que vous avez entendu évoquer les replis du cœur, plein de plis. C'est très difficile d'aller comprendre les cœurs quand il est plein de plis comme ça. Donc c'est vraiment en fait un hymne à la complexité. Et ensuite, la difficulté à juger qui est travaillée dans ce texte de La Bruyère. Bon, ben finalement, grossir le trait, c'est un hymne à la complexité, pas du tout à la simplicité, Charles-Olivier Sticker-Métral.
Ah oui, je crois effectivement que le titre donné à Marseille, l'éloge de la complexité, pourrait tout à fait être repris à leur compte.
Par l'éloge de la complexité, c'est le titre du festival, voilà. Donc de la pop philosophie à Marseille qui ouvre ses portes cette semaine. Nous leur faisons un clin d'œil cette semaine.
Et effectivement... Si on dépasse un peu cette image, alors image qui a été entretenue aussi par l'histoire littéraire, des moralistes comme étant d'abord des stylistes dont la pensée était un peu limitée ou un peu courte, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une grande réflexivité. C'est aussi des textes qui parlent de ce qu'ils sont en train de faire, de nombreuses maximes, de nombreuses remarques de La Bruyère, puisque c'est le nom que La Bruyère emploie pour les unités qui composent ces caractères, remarques, sont des remarques méthodologiques, finalement. Et les titres mêmes, d'ailleurs. Maxime, c'est un titre simplifié. Le titre de La Rochefoucauld, c'est « Réflexion ». Où s'entendent des maximes morales ? Réflexion, c'est-à-dire on réfléchit.
C'est un philosophe, quoi.
C'est un philosophe, et l'un et l'autre sont des grands lecteurs de Montaigne. Finalement, le modèle de ces moralistes, le modèle intellectuel, c'est sans doute Montaigne. Enfin, en tout cas, c'est une filiation dans laquelle je pense qu'il est fructueux de les réinscrire. Avec cette réflexion sur le jugement, comment juger. D'abord, il faut prendre le temps. On voit dans les deux cas, hein, des textes qui viennent d'être lus, il y a une question d'attention. Hein, on a plutôt fait de donner le nom de vertu que de faire l'anatomie de tous les replis du cœur. Ça prend du temps. De même chez La Bruyère, ce n'est que peu à peu que la vertu parfaite, le vice consommé, viennent à se déclarer. Il y a un intérieur et un cœur qu'il faut approfondir. Donc, tous ces termes-là, approfondir, faire l'anatomie, désignent ce que font ces moralistes qui réfléchissent ou qui remarquent, pour prendre le terme qu'ils donnent eux-mêmes à leur forme, au genre littéraire qu'ils emploient.
La finesse des caricatures du 19e siècle, Jean-Didier Wagner, est-elle elle aussi philosophique ? Est-ce que vous pensez que derrière la simplification, le trait parfois grossier, il y a une réflexion en vérité très subtile ?
Je ne sais pas si très grossier, mais il y a quelque chose qui est propre au 19e et surtout à la petite presse caricaturale aussi,
oui.
C'est la volonté d'expérimenter, pour des raisons très simples, c'est qu'ils sont confrontés tous les jours au même travail, ils sont tous en concurrence, donc il faut que leur caricature perce vraiment le public, il faut que leur texte soit repris, et donc il y a constamment une inventivité. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étonneraient, en fait. Je prends un exemple, un journaliste qui s'appelle Alexandre Flon, à rendre compte d'un livre de poèmes. Il fait son article en calligramme.
Oui.
Et on est en 1850, oui. Etc., etc. Il y en a un autre qui le fait, alors là, les Oulipiens seraient contents, il évacue la lettre E dans tout son article.
Donc c'est un lipogramme avant la lettre. Voilà. Avant
ils sont tous en concurrence, ils sont tous obligés d'expérimenter. Et je pense qu'un philosophe y trouvait beaucoup. Deleuze se plairait peut-être dans certains rhizomes qui sont construits. Il y a des choses qui s'interconnectent. Il y a des choses qui se télescopent, mais c'est très étonnant. Quelques exemples. Il y a un journal qui est pas un journal très important, mais qui s'appelle le Titi. Mais il s'est amusé à détourner la caricature constamment. C'est-à-dire qu'il a, il fait des caricatures en, alors, je sais, il n'y a pas de nom. Je crois que ça s'appelle un Johnson Wilson parce que c'était un portrait de deux présidents de la République. On pouvait regarder à droite, c'était l'un. Et quand on regardait de l'autre côté, c'était l'autre. Et donc, il y a deux images comme ça qui sont construites. Une autre fois, ils offrent en première page une sorte de caricature en puzzle. Alors, bien évidemment, c'est pour énerver la censure qui a dû immédiatement découper ça pour voir si ça formait pas une image toxique pour le régime. En fait, non, c'était un appel à l'abonnement pour les abonnés. Et une autre que j'ai jamais osé faire parce que je me serais fait renvoyer de la Bibliothèque nationale, c'est que il y a une caricature avec des grosses taches sombres dessus. Et c'est probablement de l'encre sympathique qui devait se révéler avec un briquet par-dessous. Et
vous n'avez pas osé mettre le briquet sur la page?
Non, en tant qu'employé de la Bibliothèque nationale à cette époque, j'aurais eu quand même des problèmes avec ma hiérarchie.
Donc il y a beaucoup de jeux, c'est très ludique. Et surtout, ça tisse un lien incroyable avec le lecteur. Ça dit quelque chose sur ce qu'est la presse.
Je crois que, oui, il y a beaucoup plus d'inventivité dans cette presse. Bien évidemment, il y a aussi une masse de choses qui sont moins intéressantes. Mais il y a des pics d'inventivité qui sont prodigieux. Et beaucoup au niveau aussi de l'invention, textuelle. C'est là qu'est né le poème en prose. C'est dans ces petits journaux.
Ah bon, c'est
exactement.
Là.
D'autre part.
De toute façon, même parfois pour la honnir, Baudelaire, comme Balzac, adorait lire la presse.
Bien sûr.
Et
non,
il écrivait.
Mais bon, Balzac a travaillé au Corsaire Satan. Et non seulement il a travaillé au Corsaire Satan, mais il a travaillé sous pseudonyme dans un journal qui est totalement délirant, qui s'appelle Le Tintamarre, qui s'appelait La Satire des réclames, qui était alimenté par la publicité et qui se moquait de la publicité. Et c'est un personnage qui est génial, qui s'appelle Commerson, qui a animé ce journal pendant très longtemps et qui, dans lequel vous avez des choses tout à fait modernes, comme des faux journaux, comme le Gorafi, par exemple. Vous aviez des fausses publicités, vous aviez des fake news. Mais
canular, quoi.
Hein?
Ancêtre, non seulement de Pérec, mais des situationnistes. Il y a un côté canular permanent dans tout ce que vous racontez.
Exactement. Quand je vous dis, le philosophe serait totalement heureux, parce que là, il est face à une inventivité permanente, en fait.
Dites-moi pour finir qui était Ratapoil et comment
ça... Ratapoil, il représente tout simplement Napoléon III. Hein. Ouais, voilà.
Donc, forgé par... Par Daumier.
Voilà, forgé par Daumier. Mais ces personnages, il y en a toute une collection. Moi, un de mes préférés, c'est Robert Macaire, qui dérive d'une pièce qui n'avait pas grand succès, qui s'appelait... elle aura du succès à sa reprise, mais qui était jouée par... qui s'appelle L'Auberge des Adresses, c'est une sorte de petite pièce qu'on jouait dans les théâtres parisiens, et dont le personnage principal, qui s'appelle Robert Macaire, a été joué par Frédéric Lemaître. Hein, Les Enfants du Paradis, vous voyez tout de suite. Bon. Et le personnage est devenu un raccourci de l'escroquerie généralisée, aussi bien, aujourd'hui dans le monde du numérique, je pense qu'on devrait inventer un Robert Macaire. Et...
Walking, 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 walking.
Chanson simple, Sing a Simple Song, c'était Sly and the Family Stone en 1969. Merci beaucoup Jean-Didier Wagner, Charles-Olivier Sticker-Métral, tous les deux vous nous avez passionnés du 17e au 19e siècle, si j'ose dire, c'était très philosophique, sans être trop appuyé, les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la généalogie et à son sens dans nos vies. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi recherche-t-on ses origines ? Lorsqu'un être humain entreprend de rechercher ce qu'on appelle sa généalogie, c'est-à-dire l'histoire de sa famille et des ramifications plus profondes dont il est en quelque sorte, et comme on dit, issu, lorsqu'un oncle ou une tante nous présente un arbre généalogique, lorsque quelqu'un d'entre nous va consulter un généalogiste, on dit qu'il va rechercher ses origines. Et en effet, entre la notion de généalogie et la notion d'origine, il y a un profond lien, quelque chose comme une parenté, dans leur ambiguïté même. L'origine, en effet, c'est à la fois le commencement effectif, et de ce point de vue, c'est se placer dans une histoire concrète, factuelle, biologique. Oui, nous avons été engendrés par X et Y, ou nous savons que nous avons X, et parfois le Y n'est pas totalement connu, d'ailleurs, c'est parfois plus compliqué. Nous ne savons pas tout, mais nous nous enracinons dans une histoire, nous avons besoin de nous replacer dans un récit, dans une filiation qui a quelque chose de concret, de biologique, et la généalogie, c'est d'abord le fait de se retracer génétiquement, sinon génétiquement, d'ailleurs, plutôt biologiquement, d'une manière très concrète et dans un récit factuel. Mais d'un autre côté, l'origine comme la généalogie veulent aussi être une explication par le fait du récit, de l'essence même des choses. La généalogie est aussi du côté du symbolique. Elle prétend dire notre identité, même si les anthropologies ont montré que le nom, la culture, est plutôt de l'ordre de la différence symbolique que de l'identité profonde. Mais dans la notion d'origine, on cherche non seulement un commencement factuel, mais une explication complète. Et le fantasme de l'origine, c'est justement de trouver quelque part dans cet arbre quelque chose qui explique en profondeur notre être, qui n'est pas seulement factuellement notre point de départ, compliqué, embrouillé dans l'histoire de la vie, mais aussi notre explication de notre identité profonde. Il y a donc la même tension dans la notion d'origine que dans celle de généalogie. Et au fond, il faut assumer cette tension pour ne tomber dans aucun des deux risques qui font de l'origine une explication essentialisante, et l'origine est précisément le lieu aussi de tous les conflits et de toutes les guerres, de toutes les discriminations, de toutes les différenciations qui fait du symbolique factuel une différence de pouvoir, voire de valeur entre les êtres humains d'un côté, et d'autre part, le déni de la recherche de l'origine, c'est-à-dire de la recherche aussi de non seulement d'une explication factuelle de notre histoire, mais de son enracinement symbolique et concret. L'histoire des êtres humains n'est jamais seulement une histoire factuelle, une généalogie génétique, justement. C'est toujours aussi une généalogie symbolique. Et de fait, notre histoire explique aussi quelque chose de ce que nous sommes. Comprendre notre origine, c'est nous remettre dans une histoire complexe. Les parents sont venus d'ici ou de là. Ils étaient de tel ou tel milieu social. On les connaît ou on ne les connaît pas. Il y a en effet une explication, non pas essentialisante, mais historique et culturelle de notre être qui ne se résume pas à une génétique ou à une biologie. Ainsi, la tension entre les origines et la généalogie, ce désir très ambigu qui nous porte vers elle, doit-elle être assumée par une science complète de l'humain, par l'ensemble des sciences humaines? C'est les sciences humaines qui rendent humains les êtres qui recherchent leurs origines.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim Elkabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité!